Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Chose Commune. Cette semaine, on replonge dans le Comice agricole qui s'est tenu à Blois en juin dernier. Parmi les conférences et tables rondes proposées, celle qui nous intéresse aujourd'hui concerne les sols. Comment permettre aux sols de rester vivants pour permettre à l'agriculture de rester vivante? Débat et explications dans cette table ronde. Bonne écoute!
Bonjour à tous, je m'appelle Florie Miard, je suis responsable du service biodiversité pour Aglopolis et nous allons aujourd'hui aborder le sujet qui va parler du sol. Donc, la thématique c'est comment maintenir ou restaurer des sols vivants pour un territoire vivant. Socle de la vie sur Terre, le sol reste un élément peu connu et reconnu. Il s'agit donc ici d'aborder ses composantes, son rôle et de comprendre son fonctionnement. Ces réflexions permettront de s'interroger sur sa fragilité et de découvrir les outils techniques et réglementaires existants pour le préserver. Nous avons autour de la table trois intervenants. Pierre-Alain Lesseau, pédologue au CDPNE, Comité départemental pour la protection de la nature et de l'environnement, association locale engagée dans la gestion des sites naturels pour l'éducation à l'environnement et aussi une casquette de bureau d'études pour élaborer des suivis réglementaires, pour l'élaboration de suivis réglementaires. Pierre-Alain, peux-tu nous donner une définition de ce qu'est un sol et notamment ce qu'est un sol vivant?
Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de donner une définition. Normalement, ce n'était pas moi le scientifique qui devait présenter tout ça. Il devait y avoir une personne qui était bien meilleure que moi, qui trouverait les meilleurs mots. Donc je vais essayer quand même de vous vulgariser les choses, mais si vous ne comprenez pas, on en débat après, il n'y a aucun problème. Donc déjà, les sols, c'est un très grand sujet, tout simplement parce que, en fait, ils ont différents usages, donc on va avoir différentes visions. Moi, je vais vous parler des sols pédologiques, la science du sol, comment est-ce qu'il se forme. Mais en fait, on peut avoir une définition foncière, c'est-à-dire que les personnes qui vont avoir un usage pour acheter une parcelle, construire une maison, ils ont une vision du sol différente. Un ingénieur qui va construire des routes ou des bâtiments, il va voir le sol plutôt d'une manière, est-ce que je peux réutiliser ou pas le matériau pour construire mes bâtiments ? En pédologie, c'est un petit peu plus large que ça et on va plutôt aller sur comment le sol s'est formé. Donc il y a une définition que j'aime bien de Alain Boulen qui était un ancien pédologue très compétent qui disait, alors c'est un peu long, un peu compliqué, mais au moins il y a tout dedans. Il dit, le sol c'est le produit de l'altération, du remaniement de l'organisation des couches supérieures de la croûte terrestre, donc de la géologie, sous l'action de la vie, de l'atmosphère, donc l'eau, le vent, les glaces, le climat de manière générale, et les échanges énergétiques. Parce que tout ça, ça reste quand même que de la physique-chimie. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une définition qui est large et c'est comme ça que vont se former les sols. Au détriment des roches et par altération des roches, on va avoir des sols qui vont se former. Et ensuite, on verra les usages qui vont en être faits. On est vraiment au centre entre notre roche, notre atmosphère, l'hydrosphère, donc les pluies, les rivières, et on va avoir aussi la vie qui se développe sur les sols. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, un sol, pour le définir en tant que tel, en fait, il est composé de matières solides, donc les argiles, les sables et les limons, je pense que ça vous parle, ces petites notions-là. On va avoir une notion de présence de liquide, et présence d'air. Et donc l'eau du sol et l'air du sol, c'est quelque chose qui est aussi très important parce que ça va être contenu dans la porosité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est là où va vivre, c'est là où les échanges vont pouvoir se faire au niveau du sol. Et enfin, la matière organique qui est présente dans les sols et donc qui est en fait la transition entre la matière vivante et la matière minérale. Et donc l'importance, je peux continuer encore un peu ou pas?
Ouais.
On passe la main et on passe à autre chose? aux sols vivants. Ça tombe bien, j'étais sur la matière organique. Donc, les sols vivants, en fait, ça va être le lien avec cette matière organique. Tout simplement parce que tous les micro-organismes qui vivent dans le sol, ils ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin de se nourrir soit de matière vivante qui est à la surface, soit de matière qui est en cours de décomposition. Et ils participent à cette décomposition. Donc, si on a de la vie dans le sol, et pas qu'un peu, hein, 25% de la biodiversité terrestre est présente dans les sols. Donc les éléphants à côté, bof bof quoi. On a plus de vie dans le sol que sur toute une partie du globe. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Mais pour que vive cette biodiversité, il faut qu'il y ait de la matière organique. Parce que tout simplement, il faut qu'ils puissent manger, comme nous. Et donc, l'intérêt de la matière organique, en plus de servir à manger à la biodiversité de notre sol, donc on parle des vers de terre, mais on parle des nématodes, des bactéries, et j'en oublie, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'espèces différentes. En fait, ça va permettre aussi de structurer le sol, parce qu'en fait, ça va créer des liaisons chimiques. Ça va permettre de créer une aération de notre sol. Je pense que vous avez tous vu des trous de vers de terre, c'est quand même suffisamment gros pour laisser passer de l'air ou laisser passer de l'eau. Et en fait, ça va mettre à disposition des nutriments. Et donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel, surtout quand on parle là, on va parler d'agriculture. Les nutriments sont essentiels parce qu'ils sont quasiment tous présents et uniquement dans le sol. Pour qu'une plante pousse, il faut à peu près 18 macro et micronutriments. Sur ces 18-là, il y en a 16 présents dans le sol et seulement 3 qui sont produits par la photosynthèse. Donc c'est-à-dire que quasiment tout ce qui va composer une plante, des racines, la tige, les feuilles, les fruits, c'est des éléments qui vont être prélevés dans le sol. Et il y a un schéma, je ne sais pas si on pourra le partager à l'occasion, qui a été produit par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et la FAO, je ne me rappelle plus du sigle. Mais sur le coup, ils ont produit un merveilleux schéma qui montre que tous ces composants qui produisent et qui servent à la plante sont en fait essentiels pour la vie humaine à différents endroits. Certains, c'est pour le déplacement de l'oxygène dans notre sang. Des fois, c'est pour le développement de nos neurones. Et donc, en soi, tous ces nutriments qui sont présents dans les sols, eh ben, ils vont permettre aussi la vie qui va pouvoir se développer dessus. Merci. Je m'arrête là ? Très bien. On aura l'occasion de reparler, je pense, de plein d'autres choses. J'ai encore plein de notes.
Nous avons également autour de la table Nicolas Pâtissier, donc agriculteur à la ferme de la Cour à Seillac, engagé dans l'agriculture biologique depuis de nombreuses années. Donc vous avez repris la ferme en 2021, mais la conversion de la ferme en elle-même est beaucoup plus ancienne.
La conversion en bio ?
Oui.
Oui. Donc nous, on est agriculteurs bio, on est installés depuis 2021 sur une ferme qui est en bio depuis... en partie 1980 et en partie 1990. Okay. Ou 90 et 2000, moitié 90 et moitié 2000. Ouais.
Nicolas, peux-tu nous raconter comment tu travailles, comment tu prends en compte le sol dans l'agriculture que tu fais, et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets ?
Oui. Ouais. Comme disait Pierre-Alain tout à l'heure, chaque professionnel qui travaille avec le sol va avoir sa définition du sol. Et ben bah, pour nous, pour un agriculteur en général, le sol, ça va être un substrat physique d'abord. Donc c'est une matière qu'on va travailler de telle ou telle manière selon sa composition en argile, en sable, en limon, qui va se comporter de manière différente selon les outils qu'on va utiliser, vis-à-vis de l'eau, etc. Et donc avec ce matériau-là, on va essayer de faire un lit de semences, et c'est ensuite un substrat qui va pouvoir retenir l'eau pour alimenter la plante en eau, quoi. Et après, en agriculture biologique spécifiquement, pour nous, le sol, c'est vraiment un estomac, quoi. C'est littéralement, on y amène de la matière organique. Donc ça va être des engrais pour les agriculteurs qui utilisent des engrais. Ça va être les pailles de la culture d'avant qu'on va broyer, par exemple, qu'on va détruire. Tout un ensemble de choses, des prairies temporaires ou des couverts qu'on va détruire, restituer au sol. Et donc là, nous, on va avoir besoin agriculteur bio, on aura besoin de la vie du sol pour digérer cette matière, détruire cette matière organique et la rendre, donc par plusieurs étapes, quoi, assimilable par la plante. Parce qu'en bio, on n'a pas d'engrais chimiques. Et donc ça va être vraiment ça la différence principale avec d'autres modèles agricoles. On n'a pas d'engrais chimiques. Et donc on a vraiment besoin de cette fonction estomac, quoi, qui est là grâce à la vie du sol, pour dégrader la matière organique et nourrir la plante.
Est-ce que tu as un exemple de pratique à nous partager ?
Bah, nous, par exemple, pour être autonome en engrais, parce qu'on a, donc on fait beaucoup de céréales et un petit peu d'élevage, mais sans bâtiment, donc qui sont des moutons qui sont dehors toute l'année et nourris que à l'herbe. Donc on ne va pas avoir de fumière distribuée dans les parcelles. Donc nous, notre système céréalier, il est vraiment fondé sur une alternance entre céréales et prairies. On va semer des céréales qu'on va récolter pendant 3 ans, mettons, on va faire 3 moissons. Et ensuite, donc pendant ces 3 moissons, on aura extrait des nutriments du sol qu'on aura mis dans les plantes pour ensuite nous nourrir. Et pour restaurer un peu la fertilité du sol, on va semer des plantes, notamment des légumineuses, qui vont pouvoir synthétiser l'azote qui est présent dans l'atmosphère, parce que l'atmosphère, c'est 70% d'azote. Alors nous, on n'en fait rien, mais les plantes, elles en ont besoin. Et donc grâce à ces légumineuses, grâce à ces prairies qu'on va laisser en place pendant 1 an et demi, 2 ans, qu'on va faire pâturer par nos moutons, qu'on va broyer, la matière végétale qu'elles vont produire grâce à l'azote qu'elles synthétisent de l'air, on va la restituer au sol. Et donc au bout de cet 1 an et demi, 2 ans et demi de prairies, on va pouvoir détruire cette prairie, repartir en céréales avec un sol qui aura été nourri. Et en plus, qu'on aura laissé tranquille pendant 1 an et demi, 2 ans, donc qu'on aura moins de mauvaises herbes, qu'on aura moins de... Et donc c'est ça qui permet, en agriculture bio, de se passer de produits chimiques, d'engrais. C'est notamment cette alternance prairie-culture, quoi.
Et est-ce que, par exemple, tu pratiques le labour ?
Alors, là, en ce moment, occasionnellement, oui. Mais... Au moment où on a repris la ferme et les quelques années d'après, on a pu travailler sans labour pendant 5 ans ou 6 ans. Et donc ça, nous, donc on est sur des sols qui sont assez argileux, donc qui sont assez difficiles à travailler, quoi, notamment en conditions humides. Et le fait de travailler sans labour pendant 5 ans, 6 ans, on a vraiment pu voir une amélioration du comportement du sol vis-à-vis des excès d'eau, quoi. Quand il pleuvait beaucoup, avant, donc, mon collègue, qui était le fils de la personne qui nous a... voyait tous les hivers des mares se former dans les champs, donc il allait jouer au bateau dessus, etc. Et après 5 ou 6 ans sans labour, on ne perturbe plus le sol sur une profondeur aussi importante. On améliore la vie du sol on voit vraiment une différence marquée, quoi, en termes de ressuyage de l'eau. Y a vraiment un impact très net de l'amélioration de la qualité structurelle et biologique du sol, quoi.
Et du coup, est-ce que en termes de rendement, est-ce que ça a un impact ?
C'est un impact qui est dur à juger parce que la variabilité météo, elle va avoir un impact beaucoup plus important sur le rendement que le ressuyage. Enfin, c'est assez difficile à juger, quoi.
Mais il n'y a pas de perte. C'est plutôt.
Y a de la perte si, par exemple, donc il n'y a pas l'hiver dernier, mais celui d'avant où il a commencé à pleuvoir beaucoup. On a pas implanté certaines parcelles parce qu'on était encore à 100% dans notre modèle sans labour. Et parce que l'avantage du labour, c'est qu'on n'a pas forcément, enfin, les créneaux d'intervention sont plus faciles avec labour que sans labour. Parce que quand on travaille en bio sans labour, donc quand on est en conventionnel sans labour, on met du glypho et c'est terminé. Quand on est en bio sans labour, on est obligé de travailler soit pour désherber un champ, soit pour détruire une prairie ou un couvert. On est obligé de travailler vraiment en surface, on va venir scalper la plante. Et ce travail de surface, donc il est mieux pour la vie du sol, il consomme moins de fuel, etc., c'est super, ça va plus vite. mais on a besoin de soleil avant l'intervention et après l'intervention pour que les plantes se dessèchent et meurent. Alors que quand on travaille en labour, on retourne 30 cm de terre et c'est terminé, quoi. Et donc sur des créneaux d'intervention plus courts, comme on a eu cet hiver par exemple, où il n'a pas plu pendant un certain temps, mais où il n'y a pas eu de soleil, bah là, sans labour, ça n'aurait rien fait du tout, alors qu'avec labour, ça a fait un super boulot, quoi. Donc on se le garde comme outil possible, mais
c'est pas systématique.
C'est pas systématique, et quand on arrive à ne pas en faire pendant 5-6 ans, on voit vraiment une différence marquée, quoi, en termes de population de vers de terre, en termes de rapidité, de ressuyage de l'eau, quoi. C'est assez net.
Merci. Et puis donc notre troisième intervenant, donc Nicolas Orgelet, vice-président avec beaucoup de casquettes, en charge donc notamment du PAT, donc du plan alimentaire territorial, du plan climat, plan paysage, de la biodiversité pour Aglopolis. On va reprendre du coup un petit peu de hauteur. Quels sont les liens qu'on peut faire entre le sol et notre territoire? Peut-être avec des notions de services écosystémiques.
Ben, c'est vrai que quand on parle agriculture et sol, on a tout de suite l'impression que ça va être un sujet très technique et un peu de professionnel et que ça ne nous concerne pas trop, que c'est lointain. Alors qu'en réalité, sur l'agglomération, c'est la question du sol est très importante dans toutes les politiques publiques qu'on porte. Et c'est une question qui est très politique dans ce qu'on veut porter dans la société. On a la majorité du territoire d'Aglopolis, c'est 43 communes qui sont rurales. On a la majorité des terres qui sont agricoles. Et en réalité, nous, on va avoir besoin de l'agriculture pour pouvoir protéger beaucoup de politiques publiques qu'on mène. Et puis, les agriculteurs ont besoin de nous aussi pour les protéger. Alors, je m'explique. Par exemple, l'agglomération, ça gère l'eau, le petit et le grand cycle de l'eau. Donc, ça a besoin de protéger la qualité des rivières et des nappes pour pouvoir faire derrière de l'eau potable et protéger le milieu. Si on a une agriculture qui protège cette eau, par exemple, quand on laboure trop, on a beaucoup de particules fines de sol qui vont dans toutes les rivières, ça tapisse le fond des rivières de sédiments fins et ça va tuer la vie de ces rivières et dégrader sa qualité. Si on arrive à travailler avec les agriculteurs pour moins de labour, ça va améliorer la qualité de la vie des rivières. Ou s'ils mettent moins d'intrants, ça va améliorer la qualité. Donc en termes de politique publique, on paiera moins cher pour dépolluer cette eau. Et ça passe par le sol, par les pratiques, comment on arrive à protéger l'eau en protégeant le sol. Mais on va aussi gérer, nous, par exemple, ce qu'on appelle le plan climat, c'est-à-dire comment on s'adapte au changement climatique. Et le sol, c'est un des premiers puits de carbone du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, pour stabiliser le changement climatique, il faut être à zéro émission nette. Mais le zéro émission net, en réalité, à partir du moment où il y a des activités humaines, on émet des gaz à effet de serre. Et donc ce zéro net, c'est zéro parce qu'en fait, on a une partie des gaz à effet de serre qui sont captés par les plantes et captés aussi par le sol. Et avoir un sol vivant, préserver un sol vivant, c'est pouvoir permettre de continuer d'avoir des activités économiques sur notre territoire. Donc on va travailler avec les agriculteurs aussi sur ce sujet. Et on va avoir aussi toutes les questions de risque, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de communes qui ont des problèmes de ruissellement des eaux dans leurs communes. Quand il y a trop de pluie, des gros événements climatiques, toute l'eau ruisselle et ils ont des problèmes d'inondation. Quand on arrive à travailler avec les agriculteurs pour avoir des sols vivants, ces sols vont mieux capter l'eau, ça va ralentir le cycle de l'eau. Et donc ça va moins vite partir à la rivière, une partie va être absorbée dans les nappes et donc ça va limiter aussi les risques d'inondation pour les communes. Donc on a besoin de cette agriculture qui préserve les sols et on l'a dit, c'est plus d'un quart de la biodiversité. Mais les agriculteurs, ils ont aussi besoin de nous pour préserver ces sols. Et là, c'est l'enjeu foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sans doute beaucoup entendu parler de la loi zéro artificialisation nette. C'est une loi qui, politiquement, est compliquée à porter parce que tous les maires veulent pouvoir s'étendre pour pouvoir faire un lotissement, pouvoir faire une école, pouvoir avoir des industries, pouvoir avoir de l'économie. Mais si on veut préserver une agriculture qui nous nourrit, si on veut pouvoir préserver cette biodiversité dont on dépend pour la qualité de l'eau, pour la biodiversité, pour capter le carbone, eh ben, il faut réussir à protéger ces sols qui sont dédiés à l'agriculture ou à la nature. Et là aussi, le politique a un rôle dans tout ça. Et donc, on va travailler là où on peut, c'est-à-dire notamment en essayant de travailler sur l'accompagnement aux pratiques agricoles, sur des débouchés dans la restauration collective, sur des partenariats. Et ça, c'est le rôle du projet alimentaire territorial.
Merci. Pierre-Alain, je te redonne la parole. On l'a plus ou moins abordé, mais peut-être que ça serait bien de le repréciser. Quelles sont les menaces réelles qui pèsent sur le sol et comment y remédier ?
Alors, des menaces sur le sol, il y en a malheureusement beaucoup. J'ai pas le temps de le préciser, mais dans la composition et la création d'un sol, on estime, alors c'est une moyenne mondiale et ça va dépendre des secteurs, la création de sol, c'est à peu près 1 centimètre tous les 100 ans. Par contre, une destruction, ça peut aller de quelques secondes à plusieurs années. Mais ça peut aller très très vite. Et donc, des menaces, il en existe plusieurs. On va avoir de la pollution. Donc ça va être de la pollution soit très ponctuelle qui va arriver d'un coup, soit une pollution qui va être lente et qui va s'augmenter petit à petit dans le temps, parce qu'on va avoir de la bioaccumulation. En fait, les matières polluantes vont se stocker dans le sol ou dans les organismes du sol. On va avoir de l'érosion. Ils en ont parlé tout à l'heure, mes deux collègues, c'est qu'à partir du moment où le sol n'est pas bien structuré, dès qu'il y a une pluie, dès qu'il y a un orage, il y a une partie du sol qui va s'en aller. Et donc là, dans ces cas-là, on a une perte nette de sol. On va avoir une perte liée aussi à la biodiversité, tout simplement parce que je vous ai asséné tout à l'heure, il faut de la matière organique dans les sols. Ben justement, c'est la nourriture pour les micro-organismes. S'il n'y a pas de matière organique dans le sol, en fait, les animaux présents dans le sol ne pourront pas se nourrir. Et donc, moins on a de biodiversité dans le sol, moins on a de nutriments disponibles, parce que c'est eux qui mettent à disposition les nutriments pour les plantes. Et un dernier, mais pas des moindres, et c'est ce que Nicolas vient d'évoquer, c'est les notions d'artificialisation. Donc l'artificialisation, c'est le fait de modifier le fonctionnement du sol par rapport à son état initial. Et donc, en termes de chiffres, sur le Loir-et-Cher, de 2011 à 2021, on a artificialisé un petit peu plus de 2000 hectares. Et quand j'ai vu ce chiffre-là, oui. Non, sur les 10 ans. De 2011 à 2021, on a artificialisé 2000 hectares. Je ne savais pas ce que ça faisait. J'ai regardé, c'est l'équivalent de la commune de Huisseau-sur-Cosson. Mais pas que du centre-bourg, hein. De la commune entière, champ compris. Donc ça, en 10 ans, c'est ce qui a été artificialisé que sur notre territoire. Donc voilà, des menaces, il en existe beaucoup, beaucoup. Et en effet, des outils pour essayer de la gérer, on va en trouver différents. Et c'est avec les différents acteurs du territoire, les différents usagers du sol, qu'on va pouvoir les trouver.
Nicolas, tu parlais tout à l'heure de rotation. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Vous êtes dans la polyculture.
Oui. Avoir une diversité cultivée, une diversité cultivée, une diversité d'activités. C'est important à la fois la santé économique de la ferme et je pense aussi pour la santé paysagère, quoi. C'est vrai que quand on voit un paysage de blé, orge, colza ou de maïs, c'est un paysage qui est assez pauvre. Et je pense que ça se retrouve en termes de santé du sol, parce qu'un sol qui voit pendant toute sa vie, pendant des générations et des générations, qui va voir que 3 plantes, ou qui va voir qu'une plante, parce qu'il y a certaines fermes où ça va être maïs tout le temps. C'est vrai que c'est des systèmes où qui font un peu mal, quoi. Bon, c'est pas des sols qui sont bétonnés, mais on a envie de dire c'est un peu tout comme, quoi. Alors que c'est vrai que nous, on arrive avec... on n'est pas une ferme qui est très diversifiée en termes de plantes cultivées. En plantes récoltées, on en a une demi-douzaine, quoi, en gros. Mais par contre, on va avoir nos prairies temporaires, on va pratiquer aussi des intercultures, ce qu'on appelle des intercultures, donc ça va être des mélanges de plantes qu'on va semer, par exemple, entre une moisson de blé au 10 juillet et un semis en octobre. Et bien là, on a une phase où, s'il y a des petits orages qui sont annoncés, on va semer et on va avoir un mélange de 3 plantes différentes déjà qui vont pousser. Il peut aussi y avoir des créneaux entre une culture qui est moissonnée en été ou à la fin de l'été et une culture qui va être semée seulement au printemps. Donc là, on va aussi pouvoir faire un mélange de choux, de moutarde, qui va pouvoir occuper le sol sur cette période-là, le protéger des intempéries, parce qu'un sol qui est couvert de plantes qui poussent, c'est un sol qui fout pas le camp dans le fossé, quoi. Et du coup, à l'échelle de la ferme, on a un sol qui va avoir une vingtaine de plantes différentes, qui va avoir de plantes cultivées, qui va avoir en plus une vingtaine de plantes que, qu'on n'a pas toujours envie de voir, mais qui sont là aussi. Et donc déjà, bon, on est loin d'un sol de forêt où ça reste un sol qui est relativement pauvre, quoi. Mais on a au moins une quarantaine de plantes sol au lieu de 1, 2, 3 comme dans d'autres systèmes, quoi. Et donc nous, on a aussi rajouté du mouton. Et c'est vrai qu'avoir un troupeau de moutons qui pâture, donc déjà, ça nous conduit à diversifier la prairie temporaire qu'on va faire pousser. Au lieu de faire une luzerne pure, par exemple, pour produire de l'azote à fond, eh ben, on va faire un mélange de trèfle, on va mettre du sainfoin, on va mettre du lotier, on va mettre de la chicorée, par exemple. Et en plus du sol qui va faire son travail de digesteur, de composteur de matière organique, eh ben l'estomac du mouton, il va faire la même chose. Et il va faire la même chose avec son propre microbiote. Donc en plus d'avoir le microbiote du sol, on rajoute le microbiote du mouton. À la minute où on met des ruminants dans une parcelle, on a des oiseaux qui arrivent, on a des hérons, on a des éperviers. Dès le premier jour où ils sont arrivés, ça a été immédiat, quoi. En construisant un système qui est moins dépendant des intrants extérieurs, on arrive à un système qui est stimulant intellectuellement, quoi, qui est cohérent économiquement, qui est cohérent dans l'utilisation des ressources, dans l'utilisation de la surface, etc. Et en plus, on voit que ça marche, quoi. On voit qu'on a plus d'insectes, on a plus de... Et donc ça, c'est satisfaisant. Ouais.
Et juste pour rebondir, parce que Nicolas vous parle d'une exploitation qui est en bio, qui est en polyculture élevage, donc qui a déjà des pratiques qui permettent d'avoir une diversité de plantes sur les sols. En fait, dans l'agriculture qu'on a ici, localement, on a plusieurs types d'agriculture. On a autant d'agriculture que d'agriculteurs, à peu de choses près. Mais si on va parler des agricultures industrielles qui vont avoir tendance à produire beaucoup avec une rotation relativement courte, on évoquait du maïs sur maïs sur maïs, c'est assez rare quand même, mais ça existe malheureusement. Mais on a en effet blé, orge, colza, maïs. Des fois, on a des rotations à 3-4 espèces. Et au final, il l'a évoqué, c'est le cipan, les cultures intermédiaires piège à nitrate, qui vont arriver après la moisson et qui peuvent couvrir les sols en automne-hiver. Et en fait, c'est là-dessus où on va pouvoir jouer. Quand on est sur une exploitation qui va avoir tendance à faire des rotations plutôt courtes, en fait, ce type de plantes-là, elles vont avoir l'occasion de mettre une diversité de plantes et donc aussi de régénérer tout simplement le système racinaire des plantes n'est pas les mêmes. Et donc, dans ces cas-là, on va pouvoir essayer de recréer de la diversité au moins sur cette période automnale et hivernale avant de pouvoir replanter derrière quelque chose qui va être voué à être moissonné.
Sur la question des solutions et par rapport au sol, nous, donc ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'en fonction des sols, on a des paysages différents. C'est-à-dire que rien que si vous prenez le nord de la Loire, si vous allez vers Molineuf, on a un type de sol qui fait que l'eau va rester plus en surface et on va avoir plein de petits ruisseaux, plein de petits fossés. Et quand on va travailler sur les pollutions diffuses, ça sera tout de suite beaucoup plus perceptible. Si vous prenez par contre le plateau de Beauce, vous avez un sol où l'eau va s'enfoncer, s'infiltrer plus, qui est un peu plus karstique. Et là, on dit que si on change de pratique, la pollution elle met 30 ans pour arriver aux nappes. Et on a aussi un enjeu. Les sols façonnent nos paysages et façonnent nos agricultures. C'est vrai qu'on a eu une ultra spécialisation de l'agriculture, comme tu le disais, parfois un peu industrialisée. Nous, c'est un peu ce qu'on a sur le plateau de Beauce avec des très grands champs. Et ça, là aussi, derrière, il y a des enjeux de sol parce qu'en industrialisant cette agriculture, maintenant, on part sur des fermes qui vont faire 300 hectares, qui, quand quelqu'un va partir en retraite, c'est 150 hectares qui vont se faire racheter par une ferme de 300. Et puis, on va arriver à des fermes qui font 450, 500. Et la problématique qu'on a par rapport à ces fermes qui ont des surfaces de sol plus en plus grandes, c'est qu'elles poussent forcément à de la mécanisation et à des systèmes agricoles qui sont un peu plus brutaux par rapport au sol. mais aussi on a un problème de renouvellement des générations. Aujourd'hui, on sait que 50% des agriculteurs doivent partir en retraite dans les 10-20 prochaines années. Et c'est des fermes qui coûtent trop cher à reprendre pour des gens qui s'installent. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi politique d'accompagnement. Et donc nous, on a un enjeu notamment politique sur cette question sociale et cette question de comment on facilite l'accès au foncier à des gens qui veulent s'installer. Et ça, ça peut aussi se mettre avec des politiques de protection, par exemple des zones agricoles périurbaines. Par exemple, il y a quelques années, on a une commune proche, Vineuil, qui avait mis une zone agricole protégée pour pouvoir protéger les espaces agricoles qu'ils voulaient mettre en œuvre. Donc ça, ça fige un espace agricole et ça permet de le préserver. Mais on peut aller plus loin. Aujourd'hui, on met en place ce qui s'appelle des PEAN, c'est des plans de protection agricole et naturelle dans les zones périurbaines. On arrive, la puissance publique, du coup, accès aux fonciers, mais va avoir derrière une politique d'accompagnement, de renouvellement des générations, de choix du type d'agriculture qu'on va vouloir développer. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est sur les zones de captage. Aujourd'hui, les zones de captage, c'est les lieux où on prélève cette eau potable. Et les agglomérations, les établissements publics de coopération intercommunale sont de plus en plus légalement responsables de la qualité des eaux dans ces zones de captage. Mais par contre, elles ont un titre juridique fort, c'est qu'elles ont le droit de préempter les terrains à ces endroits-là. Et souvent, on essaye de ne pas aller vers la préemption parce que ça donne l'impression qu'on s'immisce trop dans le monde agricole. Mais dire qu'on se donne les outils pour le faire, ça aide quand même à des changements de pratiques pour protéger le commun, pour protéger l'eau. Et ça, c'est possible. Et la polyculture, notamment, c'est quelque chose de très intéressant de recréer la polyculture parce que pour un agriculteur, ça va le rendre souvent moins dépendant des engrais minéraux ou autres. Nous, du coup, ça émet moins de gaz à effet de serre, mais ça ne peut nous permettre, par exemple, l'élevage, de préserver des prairies en bord de cours d'eau, en élevage extensif. Et ces prairies permanentes de bord de cours d'eau, c'est ce qui va permettre de préserver la qualité de l'eau. Donc il y a plein de choses comme ça. Et une dernière chose sur la question du foncier qu'on met en place notamment avec Aglopolis, c'est aujourd'hui vous êtes à côté d'un site qui s'appelle la Vacquerie. Et sur la Vacquerie, c'est l'agglomération qui gère les terrains. Et ils mettent en place, comme on est gestionnaire des terrains, un bail environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en fermage le terrain à un coût très réduit pour installer des agriculteurs. Mais par contre, on met un bail environnemental qui oblige à de l'agriculture biologique qui va préserver l'eau et aussi la santé des riverains. Et ce qui est intéressant dans un bail environnemental, c'est que même s'il y a changement de propriétaire, les principes qui s'appliquent à ce terrain restent. Ce qui évite des fois qu'on ait un agriculteur qui est en bio, puis après l'autre qui vient en conventionnel et qui va détruire ce qui s'est fait pendant 10-20 ans. Ça permet de penser le temps long. Et la politique, ça doit être quand même de réussir à penser les choses sur un temps long.
Si on revient sur nos sols stricto sensus, comment on peut faire l'évaluation de la qualité de ces sols? Est-ce qu'on a des outils spécifiques pour aider les agriculteurs pour qualifier leur sol en termes de richesse, ou même nous, en tant qu'agglomération, est-ce qu'on a des outils qu'on peut utiliser pour justement savoir comment va notre sol et comment on peut l'améliorer?
Très bonne question que je n'ai pas révisée. Il existe depuis très peu de temps une étude qui a été produite en partie par l'INRAE, mais aussi par d'autres chercheurs, et je n'ai plus la liste, elle est très longue. Alors déjà, une première chose, on va petit à petit, on arrête de parler de qualité des sols et on va parler de santé des sols. En fait, tout simplement parce que la qualité d'un sol, ça va dépendre encore de l'usage. La qualité et une bonne qualité de sol pour produire des carottes ou des asperges ne va pas être la même que pour produire du blé. Et donc, en fait, dans ces cas-là, la qualité, elle va vraiment dépendre des usages. Donc, quand on parle de santé du sol, dans ces cas-là, on va vraiment parler d'un sol en bonne santé, même si c'est un sol qui peut être très court ou qui est très humide. Dans ces cas-là, ils auront une notion de santé par rapport à un certain nombre d'indicateurs. Et donc, les chercheurs dont je vous parlais et l'étude qui est sortie il y a peu de temps a produit un très grand nombre d'indicateurs. Je crois qu'il y en a une cinquantaine qui vont pouvoir aussi déterminer comme ça et faire une analyse et un diagnostic de la santé des sols pour déterminer s'ils sont en bonne santé ou pas. Et je pourrais, enfin, si derrière il y a des communications plutôt internet sur cette table ronde, je pourrais vous fournir les liens vers cette étude-là. Alors, le relevé de vers de terre, Il en existe plusieurs. Et oui, en effet, on a essayé au CDPNE à l'aide, grâce à Aglopolis et grâce à l'Atlas de biodiversité communale qui a été produit sur les 43 communes, on a essayé d'intégrer et d'injecter un tout petit peu d'études de sol. Et donc, en effet, on a essayé de faire une étude des populations de vers de terre sur certains secteurs. Donc, les 43 communes, ça représente une trop, trop grande surface. On a essayé de réfléchir à la notion de trame brune. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est la continuité des sols, sachant que à partir du moment où on crée des routes, on crée des bâtiments, on va avoir des discontinuités. Et les espèces qui sont déjà très peu mobiles dans les sols pourront plus se déplacer. On s'est posé la question de est-ce que si on part de l'extérieur de Blois et qu'on va arriver à faire des sondages jusqu'à l'intérieur, au centre de Blois, est-ce qu'on va avoir une différence en termes de quantité et de diversité de vers de terre ? Et donc, en 2024 et 2025, on a fait un certain nombre de points de sondage, donc depuis Villiers-Fin, la ZUP Nord, jusqu'au cœur de Blois, quasiment au pied du château de Blois, pour faire différents prélèvements et savoir si, oui ou non, il y avait une différence en termes de quantité de vers de terre et en termes de différence. Alors, je n'ai pas encore complètement épluché tous les résultats. Malheureusement pour moi, c'est difficile de dire c'est comme ça que ça se passe. En fait, il y a des notions beaucoup plus importantes qui vont entrer en jeu aussi. Ça va être la gestion qui est produite sur ces différents milieux et l'apport de matière organique. Parce qu'en fait, pour certains des endroits qui ont été prélevés, on est sur des espaces verts vraiment avec beaucoup de pelouse, avec beaucoup de fleurs. Et en fait, dans ces cas-là, on a beaucoup d'apports de matière organique qui va aussi apporter de la biodiversité par ces apports-là. Donc, on verra quand j'aurai produit le rapport d'ici la fin de l'année. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que plus on se rapproche du centre de Blois, plus nos populations de vers de terre vont mal. En fait, tout simplement, ça va dépendre de comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on apporte quelque chose sur ces sols-là. Et si je peux juste rajouter, parce que donc là, c'était plutôt sur un secteur un petit peu urbain, on a eu l'occasion, avec le Pays des Châteaux, de travailler sur les friches délaissées en zone agricole. Et donc là, on a fait des études plutôt sur la nématofaune. Les nématodes, ce sont des tout petits vers plutôt grands comme ça. Et donc là, on va en avoir une diversité très, très large. Autant les vers de terre, on les connaît un petit peu tous et ils vont avoir toujours la même, à peu près le même type de nutrition. Les nématodes, par contre, il y en a qui vont manger que des plantes, il y en a qui vont être uniquement carnivores, il y en a qui vont manger que des bactéries. Et donc, en fait, ils sont présents dans l'ensemble de la chaîne alimentaire des sols. Et donc, ça, c'est un des outils qui me semble beaucoup plus intéressant, en tout cas pour faire des estimations agricoles de la santé des sols, parce qu'on peut savoir si, justement, nos sols vont bien à différents niveaux de la chaîne alimentaire de nos sols. Et donc ça, c'est des analyses qui peuvent être développées par la suite sur des milieux agricoles sans problème.
Je poserais bien une question à Nicolas Pâtissier par rapport en rebond à ça. J'ai l'impression qu'en fait, on dit du coup souvent qu'il faut aller vers la bio pour justement préserver cette vie du sol parce que les engrais minéraux ont tendance à la tuer. Parce que c'est un peu comme tu te prends un shot de cocaïne, tu t'es à fond et après tu meurs parce que ça t'a épuisé. Mais en même temps, au fur et à mesure, à chaque fois que tu prends une culture, tu vas quand même enlever de la vie du sol, tu vas quand même l'exporter, il faut bien ramener de la... réussir à restituer quelque chose. Or, toi, tu l'exportes à chaque fois que tu cultives, tu vas exporter une partie de la vie du sol. Et comment tu fais comment tu fais pour résoudre cette problématique ?
C'est ce que j'expliquais au début avec les prairies, en fait. Ça va vraiment être le rôle des prairies ou même des couverts. Donc, c'est des cultures qui sont improductives, entre guillemets, qui ne sont pas improductives parce que nous, on a des moutons qui les pâturent, donc ils vont prendre une partie de l'azote des plantes pour faire du muscle. Mais sinon, l'azote qu'on assimile des plantes, on en rejette une grosse partie par nos excréments, quoi. Et donc, c'est ces prairies-là qui vont permettre de compenser les exportations successives qu'on fait en moissonnant et en sortant du grain, quoi. Et en sachant qu'en bio, on a un vrai problème qui est le phosphore, parce qu'on n'a pas de moyen facile de remettre du phosphore. Donc on en exporte un petit peu dans les graines et on n'a pas de moyen facile de remettre du phosphore dans les sols. Donc les systèmes bio ont très bien fonctionné pendant un temps parce qu'au début de l'agriculture industrielle, au début de la révolution verte, les recommandations d'apport en phosphore étaient délirantes. Et à l'inverse de l'azote, à la première pluie, il va partir dans la rivière, alors que le phosphore, lui, il reste dans le sol. Il reste collé au complexe argilo-humique. Donc lui, c'est des apports de phosphore qui ont été trop importants pendant un temps, qui sont restés longtemps dans les sols. Et quand on passe en bio, on les épuise petit à petit, quoi. Mais c'est un problème qui va venir sur les conventionnels aussi assez rapidement, parce que les apports de phosphore, c'est des apports minéraux qui proviennent de mines, donc surtout du Maroc, un peu du Togo. Et ces mines-là, dans 30 ans, 50 ans, 80 ans, elles sont terminées, quoi. Et donc là, la solution, la solution, c'est toujours de boucler la boucle, quoi. Et donc nous, on arrive à boucler la boucle avec du mouton, etc. Mais comme au bout d'un moment, la bouffe qu'on produit, elle va nourrir des humains, et ben en fait, ça va être les excréments des humains qu'il va falloir récupérer à un moment pour réintégrer dans les sols, quoi. Parce que pour recycler le phosphore, l'azote, on en a 70% dans l'air qu'on respire, donc on n'en manquera jamais, quoi. Mais le phosphore, il va falloir passer, et c'est en cours actuellement, il y a des expérimentations sur l'urine, et il va falloir à un moment fermer le cycle, quoi. Après, en ce qui concerne l'utilisation d'engrais minéraux, c'est pas tant l'utilisation d'engrais minéraux qui est problématique que le système qu'elle encourage. Parce que si on a des engrais minéraux, du coup, on a un moyen facile, entre guillemets, de compenser l'exportation de grains ou de fruits ou de ce que vous voulez. Et du coup, ça va encourager des systèmes productivistes, donc avec une faible biodiversité cultivée. Et ça, surtout, ça va nous encourager à trop nourrir les plantes et donc à les rendre fragiles, sensibles aux maladies, aux ravageurs, et donc à utiliser des pesticides. En fait, l'engrais minéral, c'est vraiment le péché originel, quoi, de l'agriculture industrielle. C'est lui qui fait qu'on surnourrit nos plantes, qui fait qu'on a des rotations trop courtes, et donc qui crée le besoin d'utiliser des fongicides, d'utiliser des pesticides, qui, eux, vont dégrader la vie du sol et poser des problèmes sur nos pollinisateurs, etc., quoi. Et donc finalement, c'est en se privant volontairement de ces engrais minéraux qu'on a besoin de penser des systèmes qui sont respectueux, quoi, pour qu'ils puissent fonctionner, quoi. Parce que du coup, si on n'a plus les engrais minéraux, on est obligé de rallonger les rotations, on est obligé d'introduire des prairies temporaires, donc on va ramener des plantes différentes, donc on va nourrir des pollinisateurs, etc., etc., etc. C'est un peu la contrainte qu'on est obligé de s'imposer pour avoir un système agricole durable, quoi.
Merci Nicolas. Je vous propose, il nous reste un petit quart d'heure, de pouvoir échanger avec vous. Si l'un d'entre vous a des questions, je passe le micro.
Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. J'avais une question pour vous. En fait, vous avez parlé du phosphore et du besoin un jour d'en ramener dans le sol, avec notamment le déchet humain. Mais du coup, je croyais qu'on épandait les bouts de stations d'épuration. Et du coup, je me demande, est-ce que ça n'en contient pas assez? Est-ce que c'est une solution qui existe et qui serait pérenne ou pas du tout?
Alors, je connais pas les détails. Enfin, c'est pas un sujet dont je suis spécialiste. En tout cas, les bouts de stations, on peut pas les utiliser en bio parce que dedans il y a des métaux lourds. La réutilisation des excréments humains, ça pose cette question-là, parce qu'en fait, on utilise plein d'autres produits, que ce soit dans notre alimentation, dans les médicaments qu'on utilise, etc., qui font que, en fait, la réutilisation de nos excréments en agriculture est problématique, quoi. Mais après, aujourd'hui, sur du compostage d'urine, ils arrivent à recréer un engrais qui pourrait être... Alors, c'est encore de l'expérimentation, hein, mais qui pourrait être réutilisé en agriculture bio, quoi. Mais de toute façon, à terme, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, pour la pérennité d'un système agricole à 50 ans, 60 ans, 70 ans, je ne vois pas d'autre solution, quoi.
désolée, je rebondis. Du coup, le recyclage de l'urine ne poserait pas les mêmes problèmes sur les médicaments, les métaux lourds ?
Bah, je vous dis, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais on a eu une conférence là-dessus à la Fédération nationale des agricultures bio et ils travaillaient sur cette question-là, quoi. Et en fait, à un moment, ça va être un choix. Si on ne veut pas de métaux lourds dans notre alimentation, bah, peut-être qu'il y aura des produits qu'il faudra arrêter d'utiliser.
Merci beaucoup.
Si, y a-t-il d'autres questions ?
Bonjour. Alors, ce n'est pas vraiment sur le sol, mais c'est sur ce que tu parlais tout à l'heure, Nicolas, la protection de l'eau. En Allemagne, ça fait 35 ans qu'on arrête de faire n'importe quoi sur les zones de captage. Maintenant, on sait que ça marche. On a une eau de qualité qui s'améliore. Pourquoi, nous, on ne fait pas ça systématiquement, mettre du bio sur les zones de captage et le long de cours d'eau systématiquement ? Est-ce que ça coûte trop cher comment ?
Ben, c'est parce que c'est un sujet politique et que pour valider quelque chose, il faut réussir à mettre tout le monde d'accord pour aller dans cette direction-là. Je pense qu'il faut qu'on tende vers ça, c'est sûr. Après, à mon sens, il faut qu'on tende vers ça, mais en même temps, il faut parallèlement qu'on travaille sur les débouchés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire du yaka faucon, on ne peut pas dire à quelqu'un, soit en bio s'il n'a pas de modèle économique derrière pour vendre ses produits. D'où le fait, à un moment donné, à mon sens... C'est ce qu'on fait. La ville de Blois, par exemple, elle tend vers le 100% bio et local dans ses cantines. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on lie les deux. C'est-à-dire les moments où nous, on essaye d'acheter du bio et local pour la santé des enfants et pour soutenir l'agriculture. Et en même temps, cette question de... À côté de ça, on travaille sur la préservation de l'eau. On travaille sur la formation sur les changements de pratiques agro-environnementales. Et je pense que si on veut entraîner des gens qui ne sont pas les déjà convaincus, il faut faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, on vous forme, on vous incite à aller vers ça, mais derrière, on vous garantit un débouché dans la restauration collective. La difficulté qu'il y a, c'est que ça a été dit sur la table ronde précédente, c'est que la restauration collective, malgré tout, en termes de surface agricole utile, ça reste petit, ça reste pas grand-chose. Il faudrait aller plus loin. La région travaille, l'agence de l'eau aimerait travailler, en tout cas, par exemple, la France Nature Environnement, sur les paiements pour services environnementaux, qui sont aussi une vraie solution. C'est-à-dire, certes, il y a un petit peu moins de rendement, mais par contre, la société fait des économies sur la santé, sur la qualité de l'eau, etc. Et donc, il faudrait financer une agriculture qui puisse vivre de la bio. En lui payant ce service qu'il rend, en préservant notre santé, en préservant notre eau, en préservant la biodiversité et les sols.
Je vous propose de conclure la table ronde. Si je dois résumer en quelques mots ce qu'on s'est dit cet après-midi, je pense que le sol est un élément complexe qui peut avoir une vision aussi suivant les usages qui peut être différente pour chacun. Je reprends mes petites notes, excusez-moi. Il est important, du coup, d'avoir des pratiques prennent en compte le sol, hein, puisqu'il est le support sur lequel on travaille, notamment pour l'agriculture. Il y a des notions très imbriquées, on parle de sol, mais on rebondit de suite sur l'eau, sur le foncier. Voilà, on est conscient que c'est un système complexe, qui a encore beaucoup de choses à faire, mais qui a déjà des interrogations, il y a déjà des scientifiques qui se posent des questions. Est-ce que vous voulez faire un dernier mot, vous aussi ?
En fait, depuis le début de cette table ronde, on a évoqué la notion de cycle et de toujours pouvoir réutiliser les nutriments, et qu'en fait, les nutriments qui sont produits, à un moment, ils doivent retourner au sol. Et donc, je me suis noté une petite phrase... Peut-être que je l'ai entendu et c'est possiblement pas de moi, mais je m'étais dit, il faut donner à manger sainement à nos sols pour que nos sols nous donnent sainement à manger. Mais c'est peut-être de quelqu'un d'autre.
J'ai un petit témoignage, j'ai fait un lycée agricole, donc il y a 16 ans, j'étais en lycée agricole, et on nous apprenait à l'époque On nous donnait une analyse de sol et on nous demandait combien d'engrais il fallait faire pour pouvoir avoir le sol qu'on veut et mettre les cultures qu'on veut dedans. Et je pense que l'évolution aujourd'hui, c'est beaucoup plus de partir du sol et aller choisir ses cultures en fonction de la réalité du terrain. Et donc, en fait, c'est une réalité de paysage. On part d'une réalité de paysage, une réalité de sol, et on adapte son agriculture à ça. Malheureusement, c'est vrai que la mondialisation des échanges ne pousse pas à ça. Et j'espère qu'avec Aglopolis et qu'avec le projet alimentaire territorial, on aidera toujours plus loin les agriculteurs à avoir la possibilité d'aller dans cette direction. Voilà.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Studio Zef à la page de La Chose Commune. Bonne journée à tous et à toutes sur nos ondes.